les auditeurs qui ne connaissent pas forcément votre service, est-ce que vous pouvez nous présenter la DGCCRF?
Alors DGCCRF, donc ça veut dire Direction Générale de la Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. On a trois grands axes d'intervention. Donc la concurrence, qui est tout ce qui régit les relations entre les entreprises et la grande distribution, par exemple. La consommation, qui s'occupe plutôt de tout ce qui est arnaque, démarchage à domicile, crédit. Et puis la répression des fraudes, qui s'occupe de tout ce qui est qualité, sécurité des produits alimentaires et des produits industriels. Ça se compose donc d'agents principalement qui vont beaucoup sur le terrain pour relever et constater des infractions qui sont ensuite transmises aux tribunaux, la plupart du temps. On intervient dans une entreprise parce qu'on a une plainte d'un professionnel ou d'un consommateur, sur initiative aussi, parce qu'on est sensibilisé à un secteur. Et puis on intervient aussi à la demande de notre administration centrale à Paris sur des problèmes particuliers. Et là, c'est tous les agents de la répression des fraudes de France qui vont intervenir dans un secteur particulier quand il y a nécessité.
Est-ce qu'il y a une sorte de concurrence ou un travail en complémentarité avec les associations de consommateurs dont vous parliez tout à l'heure?
C'est complémentaire parce que eux, par exemple, à mon avis, d'après ce que je sais, ne peuvent pas agir au pénal forcément. Les enquêtes pénales, c'est nous qui les faisons. Mais quand il y a des problèmes d'ordre civil, c'est plutôt une association de consommateurs qui va pouvoir fédérer les gens et avoir beaucoup de monde qui va venir porter plainte conjointement. C'est eux qui peuvent lancer des actions nationales pour sensibiliser les gens sur un problème particulier, mais d'ordre civil. C'est une distinction à faire entre le pénal et le civil. Donc c'est complémentaire, vraiment.
Alors c'est un service de l'État, ça représente combien de personnes? Et puis on imagine des personnes qui ont plutôt une formation juridique, c'est ça hein?
Deux types de formations. Alors c'est un service qui regroupe au niveau national 3000 personnes. Dans le Pas-de-Calais, on est une quarantaine d'agents. Sachant que parmi ces 40 personnes, vous avez un secteur à Arras, la direction à Arras et le secteur à Boulogne. Sur ces 40 personnes, vous avez à peu près 30-35 enquêteurs. Et il y a deux formations, il y a deux filières de formation chez nous. En fait, on a des scientifiques et des juristes. Alors, tout ce qui est juridique ou juriste, effectivement, s'attache au droit des contrats, tout ce qui peut être noté dans les contrats, tout ce qui peut être problème de consommation et protection économique des consommateurs. Et puis les scientifiques, normalement, ont pour vocation de s'assurer de la qualité et sécurité des produits, de la fiabilité des produits. Donc effectivement, on a deux filières de recrutement. Il faut savoir aussi que c'est une administration qui a la particularité d'avoir, pour la moitié des effectifs, des cadreurs. C'est-à-dire des gens qui sont recrutés au niveau Bac plus 2, quoi. Bac plus 2, Bac plus 3, ouais. Donc c'est là une particularité. Enfin, bon, je veux dire, la maison étant tellement importante que... On a une méthode de travail qui est assez informelle, c'est-à-dire que les gens se contactent très rapidement, on gère des alertes, donc il faut que ce soit fait dans des délais très courts. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est une de nos inquiétudes d'ailleurs, les échelons hiérarchiques sont amenés à se prononcer très rapidement. Je veux dire, on se réunit très rapidement autour d'une table et on décide de notre démarche à suivre en cas d'alerte ou quelque chose comme ça. Il faut qu'on aille assez très très vite. Et on a peur que, rentrant dans le système du fonctionnement administratif traditionnel français, on soit beaucoup moins efficient en termes de rapidité. Et c'est quand même important. On a des affaires sur lesquelles on souhaite aller très très vite. Quand on a les problèmes de lait, des laits chinois, hein, je veux dire, la mélamine, ou toutes ces choses-là, il faut qu'on aille très très vite parce qu'il faut tout de suite approcher les professionnels, faire engager des opérations de retrait, voir où on en est, voir s'il y a des produits stockés quelque part, faire procéder à ces retraits de produits, destruction des produits si c'est possible. Je veux dire, et ça, il faut que ça aille vite, 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 vite. Et on peut pas, si ça nous arrive un vendredi, on peut pas dire, bon, on va attendre le vendredi suivant. On peut pas attendre 8 jours qu'un courrier monte d'un échelon à l'autre. Il faut aller très, très vite. On a une place pour l'administratif qui est toujours secondaire par rapport à la réactivité, quoi.
Alors, on parle un peu de la réforme de ce service dont vous avez commencé déjà à parler. Qu'est-ce qui motive d'abord, en fait, selon les pouvoirs, en fait, une réforme de ce service?
A priori, c'est uniquement un problème d'économie budgétaire. Toute si j'ai bien suivi quand même, le but, c'est de faire des économies. Donc, ça veut dire concentrer les effectifs, ce qui n'est pas plus idiot d'un point de vue sur l'immobilier. Donc, plus payer de loyer, par exemple, moins payer de loyer, ça, c'est pas contestable. Après, je sais pas. exactement. Ce qui motive, je ne sais pas trop. C'est la régionalisation aussi, c'est-à-dire renforcer le pouvoir de du préfet de région. Sur le fond, je ne sais pas trop. À part faire des économies, je ne vois pas.
En fait, la réorganisation des services de la concurrence et de la répression des fraudes rentre dans le cadre d'une réforme plus générale des services de l'État. Sous couvert d'une recherche apparente d'efficacité, la manière dont cette réorganisation s'opère fait craindre aux agents une éventuelle dissolution pure et simple de ce service public au profit d'entreprises privées.
Il faut savoir que notre service, enfin les agents de notre direction ont été informés de façon très clair par les décideurs, puisque au mois de juillet, juillet de cette année, juillet 2008, via une circulaire de M. Fillon, Premier ministre, on nous a dit que nous étions intégrés dans ces fameuses directes au niveau régional, que les directions départementales donc rendraient compte à leurs directions régionales qui seront elles aussi intégrées. Donc il y avait une unité de service qui était préservée. Et puis, c'est pas une blague, le 31 décembre, on a reçu une circulaire où on nous a dit, une partie des effectifs, vous partez dans les directions des populations des préfectures, une autre partie des effectifs, peut-être dans les directs. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'est jamais tenu informé de l'évolution de la situation.
Ce que vous craignez, clairement, c'est une dissolution en fait, de votre service, quoi.
On peut s'attendre à tout.
Alors, la dissolution, c'est clair, elle n'existera plus de DGCCRF. Actuellement, ce qui nous fait qu'on... Enfin, en tout cas, nous, tel qu'on le ressent, ce qui fait qu'on travaille efficacement, c'est qu'entre concurrence, consommation et répression des fraudes, agents qui travaillent dans des domaines différents, on se concerte, on se parle, on se donne des informations et on les échange, tant au niveau local d'ailleurs qu'au niveau avec des collègues d'autres directions, d'autres départements. Alors, en éclatant, comme mon collègue l'a dit, les gens à la directe et à la DPP, on ne sait pas comment vont se faire ces liens-là. Tous les liens informels, tous nos liens d'enquêteurs qui se connaissent et puis qui savent ce que recherchent les autres aussi, ça va se perdre. Pour les anciens comme moi, enfin entre guillemets, puisque ça fait 10 ans que je suis là, je sais ce qu'attendent des collègues de la concurrence ou de la consommation, je sais ce qu'ils recherchent et comment ils travaillent. Mais des petits nouveaux qui vont arriver et qui n'auront plus ce lien-là, ben, ils ne sauront plus transmettre les informations, ils ne sauront plus les rechercher. Et ça, c'est une perte vraiment de connaissances et une perte d'humanité, on va dire. Voilà, moi je vois ça comme ça. Donc nous, ce qu'on veut, enfin ce qu'on voudrait, c'est arriver à rester ensemble et à ce qu'on continue à travailler comme on travaillait. Parce qu'on a l'impression d'être efficace, en tout cas. C'est peut-être j'ai peut-être les chevilles qui enflent en disant ça, mais. On a l'impression d'être efficace quand même. Voilà. Je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est vrai que ça fait bouillir intérieurement quand même. On a l'impression que malgré tout le travail qu'on peut faire, on essaie de démanteler une administration. Parce qu'il faut bien savoir aussi que notre administration centrale à Paris, elle va probablement exploser toutes les compétences techniques des gens. On a des gens qui vont défendre les positions françaises à Bruxelles sur les OGM, sur les additifs, sur la consommation, sur beaucoup de choses. Et tous ces gens-là, très souvent, il y a des contractuels, ils vont probablement être virés. Ils vont probablement perdre leur emploi. Donc toutes les connaissances techniques, intellectuelles qui sont derrière vont être perdues. Et ça, même pour faire des économies budgétaires, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Les fonctionnaires, c'est pas forcément qu'un coût, c'est pas forcément qu'une contrainte budgétaire, c'est aussi de la richesse humaine et de la richesse technique. Voilà. Et on a l'impression que ça, dans la réforme actuelle, on n'en tient absolument pas compte.
Alors, on parlait avec vous de perte d'efficacité, de perte de connaissances. Il y a aussi peut-être éventuellement... Donc, ce que vous craignez, c'est aussi une perte d'indépendance dans votre travail ?
Ben, ça, oui. Enfin, ça, c'est un sentiment diffus. On ne peut pas préjuger et puis faire des procès d'intention. Mais localiser un certain nombre de décisions qui peuvent être parfois difficiles à prendre, je veux dire, ça peut se concevoir difficilement... il suffit qu'une entreprise mette en avant le critère emploi. Et je sais que le critère emploi, c'est important quand même socialement. Localement, il aura beaucoup plus de poids que nationalement. Donc je veux dire, est-ce que quelque part, on n'aura pas un certain nombre de choses qu'on sera tenté de laisser peut-être sur le côté ou de voir d'un œil beaucoup plus distant parce que on nous aura mis en avant, à tort ou à raison, je pense beaucoup plus à tort si c'était le cas, l'aspect emploi local avec, je ne vais pas utiliser le terme chantage, mais je veux dire quelque part, Je veux dire, ce serait peut-être un peu ça, pour se permettre un certain nombre d'abus. Bon, ce n'est pas une généralité, effectivement. Quand on vous parle de ça, effectivement, ce seront des cas qui demeurent exceptionnels. Je veux dire, il faut savoir que notre entreprise... Notre entreprise, c'est pour vous dire si ça fait déjà du dégât, tout ça. Notre service dans le Pas-de-Calais a réalisé à peu près plus de 5000 visites d'entreprise cette année. Sur les 5000 visites, il faut considérer qu'en gros, on a 300 à 350, j'allais dire, suites qui sont ou administratives, ou pénales, ou civiles, ou souvent, alors ça prend la forme d'un rappel écrit ou rappel d'intéressé. À ses obligations, à la respecter, c'est l'injonction, c'est-à-dire que là, on demande à la personne de rectifier le tir tout de suite et sans délai. Et puis après, parfois, il y a du pénal quand même, parce que les faits sont autrement plus graves. Et donc, à ce niveau-là, nous, des craintes, c'est là qu'on les a. C'est qu'on a peur que sur un certain nombre de dossiers, l'administration locale soit soumise à des pressions, qui font qu'on laissera tomber un certain nombre d'affaires alors qu'elles ne mériteraient pas de passer à la trappe, quoi. Donc ça peut... C'est un sentiment, c'est une crainte que l'on a. C'est pas une certitude, mais c'est une crainte. On a peur qu'effectivement, une administration au niveau... un service de l'État au niveau départemental n'ait pas le poids suffisant de l'État lui-même au niveau national, au niveau des décisions nationales à prendre. On a peur aussi que les liens ne se fassent plus, justement, entre les différentes régions, au niveau national, qu'on n'ait plus cette unité de travail. Ça aussi, il faut quand même savoir que... On est quand même une République qui, jusque maintenant, dans sa Constitution, met en avant l'égalité de droit des citoyens. Alors, est-ce que l'égalité de droit sera la même dans le Nord, dans le Sud, dans l'Est ou dans l'Ouest? Je veux dire, avec la tournure que ça prend, on se le demande.
Dernière crainte, et pas des moindres, exprimée par les agents de la DGCCRF, c'est au niveau des salariés, la crainte de mutation ou carrément de suppression de postes dans le service.
Actuellement, c'est vrai que nous, ce qui nous fait peur aussi... ce serait de devoir forcément déménager, de devoir quitter Arras. Bon, ça pose des problèmes de transport, des problèmes de scolarisation des enfants. Ça, on ne sait pas du tout. C'est vrai que pour l'instant, on est dans le flou. Bon, on verra bien. Mais c'est vrai qu'il y a ces inquiétudes-là aussi, des inquiétudes purement matérielles, purement humaines aussi, hein, bien sûr. Mais bon, pour l'instant, on a tellement peu d'informations qu'on ne s'est pas encore focalisé là-dessus, c'est vrai. Mais ça viendra peut-être, on ne sait pas du tout.
Et en termes de suppression de postes, peut-être, vous ne savez pas si le nombre de postes va changer ou...
Dans la mesure où on est déjà dans un programme qui a été mis en place où c'est, et tout le monde, je veux dire, ça c'est connu, c'est deux fonctionnaires qui partent en la retraite, un seul sera remplacé. Bon, je veux dire, nous, chez nous, déjà au niveau de notre service, il faut savoir que dans les années, fin des années 90, on était à près de 4000 fonctionnaires au niveau national dans notre administration. Bon, aujourd'hui, là, on est... Non. Aujourd'hui, on est proche des 3000. On est très proche des 3000. Et donc, effectivement, on sent que c'est déjà assez efficient. On a eu un certain nombre de départs à la retraite. Je veux dire, une direction comme Arras, elle est passée en quelques années. Elle est passée d'une soixantaine de personnes à une quarantaine. Alors, là aussi, vous avez des tas de réponses très intéressantes, toutes les plus intéressantes les unes que les autres. La première chose, c'est de vous dire, oui, mais vous comprenez, les techniques de travail ont évolué. Vous avez un matériel informatique performant. Bon, effectivement, c'est vrai qu'en termes d'administration, on dispose d'un matériel informatique performant. Pour combien de temps encore, ça, on ne sait pas. Mais jusque maintenant, c'est vrai que c'est intéressant. Les collègues travaillent avec des micros portables. Ça peut vous paraître surprenant, vous, en qualité de média, mais on a des téléphones mobiles. C'est pas le cas de tous les services de l'État. On a des ordinateurs portables. C'est pas le cas de tout le monde. On bénéficie d'appareils photo numériques, ce n'est pas le cas de tous les services non plus. Tout ça, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Alors ça fait partie des arguments que l'on vous donne pour vous dire, mais on n'a plus besoin d'autant de personnes qu'avant, regardez la preuve. Ceci dit, si, parce que la demande, elle s'est très nettement intensifiée. Il faut savoir que la loi LOLF nous impose un certain nombre de quotas à atteindre en termes de résultats, je veux dire comme tout le monde. Hein. Que ces résultats, ça conditionne une partie encore infime aujourd'hui de nos rémunérations. Mais ça la conditionne déjà et on sait que ça va la conditionner de façon plus importante. Sachant que effectivement la situation évolue, mais je veux dire, ça évolue pas forcément en nous donnant moins de travail et moins d'activité, en réduisant notre panel d'intervention. Ça évolue aussi dans un cadre d'une charge de travail parfois supplémentaire. Il ne faut pas oublier que les ventes par Internet ou toutes ces choses-là, maintenant, ça occupe une certaine place dans les activités de contrôle de notre service. Il faut savoir que des plateformes Pour le poisson, il y a de moins en moins de pêcheurs à Boulogne-sur-Mer, soit, mais il y a de plus en plus d'entreprises de conditionnement de poissons, de transformation du poisson. Donc tout ça, ça nécessite aussi des modalités de contrôle. Parce que maintenant, la particularité, c'est que, même si ça existe encore, mais c'est pas Boulogne, ce n'est pas que le poisson qui arrive dans un petit chalut boulonnais qui vient de l'Atlantique nord-ouest et qui rentre au port, qui décharge et l'entreprise qui transforme le produit. C'est que la plupart du temps, un certain nombre de, enfin, les produits proviennent d'Europe de l'Est, de la mer Baltique. Alors je vous laisse le soin, hein, je ne vais pas vous parler de la mer de Mourmansk, je pense que vous savez ce que c'est. C'est une mer où quand vous plongez, même la nuit, il y a la lumière, quoi. Hein, puisqu'il y a un certain nombre de sous-marins qui sont au fond. Il paraît que c'est très bon pour faire pousser le poisson, pour le faire évoluer. Donc nous, on surveille un peu tout ça avec nos collègues, effectivement, des affaires maritimes, avec nos collègues des services vétérinaires aussi, qui sont amenés à vérifier ce genre de produits. Mais comme ce genre de fonction économique est en développement, effectivement, il y a une charge de travail plus importante. Et tout ça, ça nécessite des analyses supplémentaires, ça nécessite des recherches supplémentaires. Donc effectivement, ça ne veut pas dire qu'on améliore le résultat parce qu'on a un meilleur logiciel. Un logiciel, il ne remplacera pas un enquêteur. Il peut aider un enquêteur dans son travail, mais ça ne le remplace pas. Voilà. Alors maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Maintenant, si on veut effectivement une société totalement libérale où chacun se débrouille avec ses moyens, et puis c'est tout, je veux dire, autant annoncer la couleur, quoi, clairement.
On écoutait les témoignages de deux agents de la DGCCRF, la Direction Générale du Contrôle de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, Jacques Joude en charge du service juridique, il est délégué CFDT, et Gilles Dumoulin, délégué CGT, il est contrôleur de produits alimentaires. Une interview que vous retrouverez en ligne au www.radiopfm.com.